I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Got gun, Hulk left slot,
Dixie left, T left,
Mercedes, wide chip, Ricky,
Bieber left, 75, Katie, Omaha,
quick going.
Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 738 du podcast Touchdown Actual. Un matin, très heureux de vous retrouver pour parler Free Agency. À mes côtés aujourd'hui, Grégory Richard, bonjour.
Et salut Alain et bonjour à tous.
J'ai eu du mal pour le compte hein, parce qu'il y a un podcast draft qui est dans les tuyaux, donc il y en a eu plein avant, je suis allé recompter, on est à 738 je crois.
Oui, je suis désolé par rigueur parce que même moi j'arrive plus à tenir le compte
ouais.
Perso.
Mais peut-être que demain vous allez entendre Victor Roulier dire « Bienvenue dans l'épisode 738 » parce qu'ils l'ont enregistré avant et ils ne savaient pas que j'allais le décaler le sien, donc voilà, je les ai piégés. Comment ça va Grégory ?
Bah, écoute, très bien, hein, avec une actualité sur le moment. En pleine effervescence, comme je pense beaucoup de nos auditeurs.
Exactement, on va se lancer dans la Free Agency. Il n'y a pas de programme pour les podcasts Free Agency, c'est-à-dire qu'on va faire quand on pense qu'il y a suffisamment d'actu, voilà, pour résumer un peu les choses comme ça. Et là, il y a eu des gros mouvements de quarterback notamment, donc on va parler de ça. On va parler aussi de Chris Jones, on va parler de beaucoup de running back, marché inattendu du début de Free Agency. On enregistre là à peine 26 heures après l'ouverture du marché, 26-27 heures après l'ouverture du marché. Donc peut-être qu'au moment où vous allez écouter cet épisode, il sera passé d'autres choses, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres podcasts, petit jingle, et on commence à débriefer tout ça.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence avec la grosse nouvelle, c'était probablement le free agent le plus attendu puisque c'était un quarterback, alors il y avait des joueurs peut-être en talent pur un peu au-dessus, mais les quarterbacks c'est toujours une rareté, les quarterbacks compétents lors de la free agency, il y en a rarement, et là il y avait Kirk Cousins qui a été très vite, les rumeurs couraient depuis plusieurs jours qu'il serait attiré par les Falcons, et 2 heures je crois, l'article a été publié, je regarde à 22h29, le marché je crois ouvrait avec le décalage horaire à 17h, donc bon, il y a eu 5h30 pour se mettre d'accord avec les Falcons, 4 ans, 180 millions de dollars, dont 100 millions garantis, il y a un bonus à la signature de 50 millions au milieu de tout ça, donc c'est quand même plutôt pas mal pour un joueur qui a 35 ans, qui revient d'une blessure au tendon d'Achille, c'est-à-dire d'une déchirure du tendon d'Achille, donc il n'est pas opérationnel à 100% au moment où on se parle. Grégory, est-ce que... Alors, est-ce qu'on prend l'angle Falcons ou est-ce qu'on prend l'angle Kirk Cousins ? On va prendre l'angle Falcons. Est-ce que c'était la meilleure signature possible ? Est-ce que c'est une grande journée à Atlanta ?
C'est une journée importante à Atlanta. Une grande journée, on attendra de voir. C'est sûr qu'en effet, tu l'as un petit peu évoqué, il y a forcément un calcul du risque qu'il y a à prendre en considération. Maintenant, on voit que ça fait plusieurs années maintenant... qu'Atlanta pèse un peu le pour et le contre concernant la question des quarterbacks. Il y a eu cette course un petit peu désespérée sur Deshaun Watson, un peu controversée également il y a 2 saisons avant de se faire coiffer au poteau par Cleveland. L'année dernière, il y avait ces questions sur Lamar Jackson et finalement, on a décidé de ne pas dégainer les nombreux tours de draft qui étaient à mettre dans la balance. Donc, un jour important, oui, parce que manifestement, il y a une page qu'on avait tenté de tourner après Matt Ryan et qui n'a pas été concluante. Et là, en effet, on s'offre la possibilité enfin d'avoir un quarterback à minima potable, hein, je dirais, en NFL, sans vouloir manquer trop de respect à Desmond Ridder, mais on a vu qu'il n'était pas la solution. Donc en tout cas, un quarterback un peu plus d'envergure, avec une grosse expérience et une capacité à jouer dans les airs, ce que n'arrivait plus à faire Atlanta depuis quelques saisons.
Oui, c'est vrai que ça, là-dessus, ça change de Desmond Ridder, ça change de Marcus Mariota, Tyler Heinicke. Ils étaient vraiment dans cet entre-deux au poste de quarterback assez terrible. Ils n'étaient pas assez haut non plus, peut-être, pour prendre un des top joueurs de cette année,
ce qui était souvent leur cas,
hein, d'ailleurs. C'était aussi pour ça qu'ils étaient dans cette situation un peu compliquée. Là, ils ont un joueur qui est compétent, qui est souvent, qui a souvent été décrié, d'ailleurs, Kirk Cousins, à tort ou à raison. J'ai souvent l'impression qu'on est un peu dur avec lui, non ? C'est quand même un très solide quarterback en NFL, il n'y en a pas tant que ça.
Moi, ça a toujours été mon interrogation durant sa carrière. Alors, ça tend un petit peu à changer au cours des dernières années du côté de Minnesota. On va pas se mentir, c'est sûr qu'il y en a beaucoup forcément qui vont regarder sous le prisme des Brady, des Mahomes, même dans une moindre mesure des Burrow ou des Allen. Oui, il est peut-être pas de cette trempe-là, mais en tout cas, ça reste un quarterback extrêmement performant, qui a démontré chaque année, à chaque fois qu'on pouvait se dire, bah tiens, est-ce que finalement il mérite qu'on lui donne un nouveau contrat à Washington ? Ah bah tiens, finalement, il a braqué la banque à Minnesota, il va peut-être pas faire des si bonnes performances que ça. Bon bah au final, il a toujours plus ou moins bien tourné dans les différentes équipes. Il s'est souvent battu malgré tout pour les playoffs, même dans des formations qui n'étaient pas non plus les principales écuries de leur conférence à l'époque. Donc, et je trouve que ce qui est intéressant en l'occurrence, et c'est aussi ça pour faire un petit peu la passerelle entre ce qui est intéressant pour Atlanta et pour le joueur, c'est aussi qu'il rejoint un système offensif qui peut correspondre à ce qu'il avait à Minnesota, puisque le nouveau coordinateur offensif, Zach Robinson, est aussi un ancien assistant de Sean McVay, ce qui était le cas de Kevin O'Connell. Donc, il va pas arriver en découvrant un nouveau système offensif. Donc, sorti du registre un petit peu blessure, d'un point de vue purement football et schéma, c'est du temps gagné aussi pour les Falcons.
18 touchdowns, 5 interceptions la saison dernière en seulement 8 matchs, 29-14 l'année d'avant, 33-7, 35-13, 26-6, enfin c'est des bonnes saisons quand même à Minnesota, il est quand même plutôt solide. Je suis assez d'accord, j'ai un peu de mal à comprendre à quel point, et quand on voit comment sont défendus d'ailleurs certains quarterbacks médiocres, je me rappelle toujours de la blague constante, quand c'était Jameis Winston et qu'on disait non mais en dehors des 30 interceptions c'est quand même un super joueur. Là, c'est quand même un joueur qui est quand même globalement très propre. Il a aucune saison à plus de 14 interceptions d'ailleurs. Et en carrière, il est à 270 touchdowns lancés pour 110 interceptions seulement en 150 matchs. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Tu le disais, le système offensif va être similaire à Minnesota. Ce qui va rejoindre un peu la prochaine question que je voulais poser, c'était est-ce que pour lui, pour Kirk Cousins, c'est un bon choix ? Est-ce que c'est mieux d'être à Atlanta aujourd'hui que d'être à Minnesota ? Ça semblait pas forcément évident vu les résultats des deux équipes ces deux dernières années. Mais si tu dis il y a le même système offensif, bah, est-ce que c'est quand même pas mieux d'avoir ce même système offensif-là avec Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts ?
C'est un peu ça. Après, j'ai presque envie de dire pour Kirk Cousins, surtout quand on regarde les détails contractuels, il a le beurre et l'argent du beurre. Il a un système offensif qui, en effet, peut lui correspondre, avec, en plus, les prétentions salariales qui, clairement, ne pouvaient pas être mises en avant du côté de Minnesota. Je me mets à la place des Vikings qui, de toute façon, ont déjà procédé à une petite reconstruction avec le départ acté de Dalvin Cook il y a un an. Aujourd'hui, on dit oui, est-ce qu'il faut trader Justin Jefferson, etc. Bon, ça, c'est une toute autre question qui viendra peut-être à l'avenir. Mais en tout cas, ça restait une page à tourner. Et peut-être qu'en effet, avec le problème de blessure et l'âge avançant de Kirk Cousins, c'était aussi intéressant de tourner la page. Donc, Kirk Cousins avait tout intérêt à tenter de faire monter les enchères par le biais de l'équipe la plus intéressée, qui a longtemps et qui est restée pendant pas mal de jours récents, les Falcons. Et voilà, bon après, j'espère qu'il va faire un beau cadeau à son agent, parce que c'est sûr que depuis sa carrière, depuis le début de sa carrière en tout cas, notamment quand on voit ce qu'il a eu du côté de Minnesota, globalement il a des contrats qui sont en or massif.
Ah oui, c'est vrai que de ce côté-là, et puis encore une fois, on le dit, hein, c'est quand même un joueur qui est en retour de blessure. Il est pas mal, il est à 331,7 millions de dollars de gains en carrière pour Kirk Cousins. Ça le place derrière Aaron Rodgers qui est à 342, mais devant Matthew Stafford à 328, Russell Wilson est à 256, Ryan Tannehill à 196. J'ai pas ça c'est les joueurs actifs, j'ai pas Brady et Manning, je pense que Brady est au-dessus de ça, mais on est quand même sur du pas mal pour Kirk Cousins. Pour le coup, c'est peut-être pas le quarterback top élite, mais il a des revenus en rapport, hein, par contre. Là-dessus,
c'est ça. Bien. Mais je pense que les critiques dont tu parlais tout à l'heure, ça vient peut-être de ça aussi.
Peut-être aussi.
Et
de
peut-être
ça,
son côté qui manque un peu, qui est peut-être pas assez clutch en playoff, mais voilà. On attendra de voir, mais ça reste une bonne opération, je trouve, pour les deux parties.
Il y a quand même. Quoi, il y a pas beaucoup de, j'allais dire, il y a quoi, il y a seulement une quinzaine de quarterbacks que je préférerais avoir à lui en NFL, max. Donc si on regarde que le sportif, c'est quand même une bonne opération pour Atlanta. Est-ce qu'ils sont favoris de la NFC Sud maintenant?
Potentiellement, il y a un problème de coach, je trouve, chez les Saints. Les Bucks, on va voir comment ça se passe avec Baker Mayfield sans Dave Canales. Bon, les Panthers, alors on fait ce podcast, le chantier est encore assez massif. Donc oui, en tout cas, ça, c'est un argument assez majeur pour une équipe qui était, jusque dans les dernières semaines de saison régulière, l'année passée, concurrente au titre de division. Ils peuvent très sérieusement y prétendre en 2024 avec cette signature.
Un mot pour les Vikings, il faut repartir, ils ont signé Sam Darnold, mais on se doute bien que c'est un peut-être, bon voilà. Il y a Justin Jefferson, moi je suis jamais fan de ces rumeurs, dès qu'il y a un joueur qui part, on dit « Ah ça y est, on va échanger tout le monde », etc. Pourquoi ils garderaient pas Justin Jefferson s'ils arrivent à monter dans la draft et à choisir un mec, ou s'ils font une bonne affaire, ou s'ils font un transfert, ou j'en sais rien. Bon, après il y a ces histoires de contrat à lui aussi, mais bon, ça fait mal quand même pour les Vikings, on a l'impression que là il y a quand même une fenêtre qui s'est refermée, ça a duré 6 saisons avec Kirk Cousins, ils étaient quand même plutôt dans le rythme tous les ans, ils ont eu quelques passages en playoff, et c'est comme ça que les fenêtres se referment, il faut tout reconstruire maintenant.
Bah alors, je ne serais pas si définitif que ça, comme tu le disais, c'est sûr que la signature de Sam Darnold, je pense que très clairement, ça, c'est une manière de crier de manière silencieuse, on va drafter un quarterback. La question c'est de savoir quel est celui qui correspond le plus à leur système. J'ai une petite idée sur la question, mais on aura le temps de le développer au cours du prochain mois et demi qui va nous amener à la draft NFL. Malgré tout, ils ont trouvé un running back pour vraiment remplacer Alexander Mattison qui n'était pas performant l'année passée. Je pense qu'on va en parler dans quelques minutes. Donc voilà, après il ne faut pas être ultra défaitif. Je trouve que Brian Flores fait du bon travail en défense, en tout cas il l'a démontré l'année dernière, même s'il y a cette situation aussi autour de Danny Hunter qui est assez floue, ça aussi ça va être à surveiller. Offensivement, même en l'absence de pas mal de cadres offensifs l'année dernière, Kevin O'Connell a démontré qu'il était capable de créer quelques surprises. Donc peut-être qu'avec un groupe un petit peu plus jeune, puisque encore une fois le renouvellement devenait nécessaire à ce moment-là de l'histoire, faudra voir, mais c'est sûr que du côté de Minnesota, va falloir un minimum de temps d'adaptation pour ce nouveau chapitre.
On continue sur les quarterbacks d'expérience qui gagnent beaucoup d'argent avec Russell Wilson. Il a été coupé par les Broncos depuis notre dernière émission, mais il a aussi re-signé avec une nouvelle équipe depuis notre dernière émission. C'est allé très vite. Il signe avec les Pittsburgh Steelers. Alors, contrat minimum, 1 an et 1,2 million de dollars. Pour une raison très simple, il s'en fiche puisque les Broncos lui payent 38 millions de dollars pour l'année à venir. Et surtout, il faut savoir que dans le cas de Russell Wilson, ce qui arrive souvent, hein, le salaire qu'il aurait touché avec sa nouvelle équipe ou qu'il va toucher avec sa nouvelle équipe est déduit de la facture des Broncos, en fait. Donc s'il avait pris un contrat à 20 millions, bah les Broncos lui auraient payé que 18, mais dans tous les cas, il touche 38 à la fin. Donc il s'en fout, il va pas plomber les comptes de sa nouvelle équipe, donc il prend que 1,2 million. Et ça, c'est quand même une très très bonne affaire pour Pittsburgh. Est-ce que t'es étonné de voir les Steelers tenter ça? Parce qu'ils étaient sur une approche quand même un peu conservatrice, c'est une franchise qui a un peu cette image là aussi, un peu comme des Packers ou des choses comme ça. Ils avaient drafté Kenny Pickett après avoir eu Ben Roethlisberger, on sent, voilà, il y avait une idée qui était de le développer. Là ça sent quand même le désaveu et le on veut gagner tout de suite.
Oui, alors pour le coup, moi ce qui m'étonne un peu avec cette signature là, alors vous savez je suis un peu l'avocat des quarterbacks en difficulté par moment, c'est un peu mon label sur certaines émissions, mais en étant sérieux 5 minutes, je reconnais bien entendu les lacunes et le plafond qu'a pu atteindre Kenny Pickett durant ses premières années du côté de Pittsburgh. Maintenant j'ai aussi du mal à me détacher du fait que, même s'il a beaucoup servi de bouc émissaire ces dernières années, mais je trouve aussi à raison, la manière dont il était peut-être développé sous le coordinateur offensif Matt Canada était sans doute pas la plus optimale pour manier l'euphémisme. Donc j'aurais été curieux de voir ce que Arthur Smith, par exemple, aurait pu en tirer. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas titulaire. Hein. Peut-être que l'arrivée de Russell Wilson, surtout à ce tarif-là, ça peut laisser sous-entendre que on va faire une bataille des camps d'entraînement. Et puis si Russell Wilson, qui reste malgré tout plus sur la fin que sur le début, est moins bon que Kenny Pickett, on lancera Kenny Pickett.
Le défenseur des quarterbacks en difficulté et le manque de respect pour Russell Wilson.
En soi, le problème, c'est...
Tu méprises les vieux, tu fais du jeunisme.
Non, la cote de Russell Wilson était ce qu'elle était. S'il a atterri du côté des Steelers, alors tu l'as dit, le salaire est aussi expliqué par la gestion assez chaotique, c'est moins qu'on puisse dire, des Broncos, mais je n'ai pas la sensation que ça s'est battu non plus sur le marché pour pouvoir le signer. Derrière les Steelers, avec qui éventuellement les Giants, peut-être en plan B, mais ça restait avant tout un quarterback vétéran qu'on allait tester sur un an pour mettre en concurrence avec un jeune quarterback qui a déçu et qui aurait été susceptible de bousculer un peu, justement, de piquer au vif le jeune loup pendant les camps d'entraînement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais a priori, j'ai du mal à me dire que Russell Wilson n'arrive pas comme étant un titulaire d'emblée et une solution plus crédible que ce que pouvait l'être Mason Rudolph en fin de saison passée.
Ouais, moi, j'allais te dire, excuse-moi, mais s'il n'arrive pas à battre un joueur qui a 13 touchdowns pour 13 interceptions en 25 matchs, parce que, enfin, faut quand même se rendre compte, je sais, Matt Canada, etc., mais... Enfin, 13 touchdowns lancés en 25 matchs en 2024, oui. Enfin, dans la NFL moderne. Je suis désolé pour Kenny Pickett, mais ça sent quand même le bust, quoi. Donc,
c'est aussi pour ça que encore une fois, le souci, moi, que j'ai dans cette situation-là, c'est que sans dire que Kenny Pickett est la solution d'avenir pour Pittsburgh, parce que je pense qu'il ne l'est pas, le souci, c'est que j'aurais du mal à te dire que c'est vraiment... En fait, je te dirais clairement que c'est lui le problème si l'attaque globale de Pittsburgh avait été bonne. Alors, le problème, c'est que l'attaque globalement n'était pas bonne. Donc, c'est une composante de plus dans le marasme ambiant.
C'était ce que j'allais, par contre, enchaîner. Autant, je ne suis pas convaincu par Kenny Pickett et je trouve ça bien qu'ils aient pris mieux. Est-ce que c'est beaucoup mieux? C'est une autre question.
Ça limitera les pertes de balles pour répondre à ton...
En fait, moi, j'allais surtout aller sur la ligne. C'est-à-dire que le problème, il reste le même. S'il n'y a pas de ligne offensive, on a bien vu, Najee Harris, il peut pas vraiment, enfin, alors, il a fini par être supplanté, mais, enfin, il y a rien qui peut se développer derrière cette ligne-là, il y a rien qui, c'est compliqué, donc je vois pas ce que Russell Wilson, il va faire un peu mieux, mais je vois pas ce qu'il va faire de beaucoup mieux, et donc je suis pas sûr que, c'est pas comme s'ils avaient eu je sais pas, les Buccaneers quand Brady arrive, quoi. Tu vois, il y avait une défense qui était là, un peu comme Pittsburgh, sauf que l'attaque, elle ressemblait vraiment à quelque chose. Et t'avais un quarterback vétéran qui arrivait pour vraiment lui faire passer un palier, limiter les pertes de balles, etc. Là, Russell Wilson, il n'arrive pas là-dedans, j'ai l'impression. Il arrive dans un truc qui est quand même très, très flou.
Oui,
quoi,
parce
qu'on ne sait pas quel va être le niveau de la ligue. George Pickens, ça reste sur courant alternatif. Najee Harris, on ne sait toujours pas ce qu'il vaut vraiment.
Après, tu l'as dit, ce qui est intéressant... c'est cette gestion du salaire et ce cadeau entre guillemets des Broncos qui peut permettre justement à Pittsburgh de continuer de renforcer sa ligne. On se doute qu'ils vont continuer de renforcer l'intérieur de la ligne. Ils ont coupé leur centre Mason Cole, ils étaient en contact je crois avec Mitch Morse, l'ancien de Buffalo qui finalement est allé à Jacksonville, donc on sait qu'il va y avoir des mouvements là-dessus et qu'ils vont peut-être essayer de développer également Broderick Jones qui était rookie la saison dernière sur le poste de tackle. C'est encore un gros chantier, je suis d'accord avec toi. Après, oui, ça rassure sans doute un petit peu plus d'avoir un Russell Wilson et son expérience derrière le centre plutôt qu'un Kenny Pickett qui va peut-être avoir tendance à paniquer beaucoup plus rapidement sous la pression.
Tu veux dire que Mitch Morse leur aurait envoyé des signaux contradictoires?
Il aurait pu, ouais.
Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est un tournant de carrière étonnant, en tout cas, pour Russell Wilson. Je ne sais pas s'il y a 3 ans, on t'avait dit qu'il lancerait qu'il connaîtrait 3 équipes, qu'il irait dans la FC.
C'est aussi pour ça que je dis ça, c'est que mine de rien, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, et on l'a dit, hein, il a frôlé des titres de MVP plus d'une fois au cours de son passage, notamment chez les Seahawks. Il vient quand même de se faire dégager 2 fois de sa franchise à coup de pied aux fesses et limite on l'a fait passer pour un malpropre, quoi. Donc c'est un peu, ça envoie pas un très très bon signal aux différentes équipes NFL aussi.
Ouais, il y a eu une grosse chute. Il a 35 ans, il a le même âge que Kirk Cousins, je rappelle. Mais c'est vrai qu'à une époque, 35 ans en NFL, il y avait une chute. Hein. On s'est habitué à des phénomènes à la Brady Rogers, mais il y a une époque où 35 ans c'était quand même un peu une zone de danger, on va dire. On va terminer le tour des quarterbacks avec Baker Mayfield, qui est un peu plus jeune et qui a retrouvé un petit peu du niveau avec les Buccaneers, qui est allé en playoff et qui va rester avec les Buccaneers. 100 millions de dollars avec un montant garanti de 50 millions, il peut monter à 115 avec les bonus et c'est 3 saisons. Est-ce que c'est la transaction la plus logique? de l'intersaison.
Oui, on a vu que, alors, il y a des équipes qui ont voulu absolument s'évertuer à prolonger pas mal de leurs cadres. Je pense aux Chiefs, par exemple. C'est également le cas des Buccaneers, qui ont fait revenir pas mal de joueurs assez importants. Mike Evans, il y a Greg Gaines également sur la ligne défensive dans une moindre mesure. Mais en tout cas, ils ont vraiment essayé de conserver une certaine ossature, que ce soit en attaque ou en défense. Et voilà, ça paraissait logique quand même que Baker Mayfield, avec la dernière saison qu'il a réussi à accomplir, notamment la deuxième partie d'année qui a permis aux Bucks d'atteindre les playoffs, ça paraissait logique qu'on continue du côté de Tampa à lui donner leur confiance.
Ouais.
Après, je le disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a cette interrogation qu'on peut légitimement se poser sur le départ notamment de Dave Canales, l'ancien coordinateur offensif du côté de Carolina. On a fait venir Liam Cohen en tant que coordinateur offensif qui était passé chez les Rams justement il y a quelques saisons et qui avait justement contribué, on va dire, au rebond de Baker Mayfield dans la deuxième partie de saison des Rams quand Mayfield y avait été envoyé. Donc voilà, faut voir un petit peu comment ça se goupille. C'est sûr que sur le principe il y a une forme de logique, mais on a tellement été habitué aux montagnes russes avec ce joueur qu'on est malgré tout tenté de rester un petit peu sur sa fin. Enfin, sur ses réserves, en
tout cas. Mine de rien, il sort de sa saison où il a battu ses records sur les passes complétées, les passes tentées, le pourcentage de passes complétées, les yards à la passe, le nombre de touchdowns lancés. Il n'a pas sa meilleure évaluation. Sa meilleure évaluation, c'est sa saison 2020 avec Cleveland où il a 26 touchdowns et 8 interceptions seulement. Mais bon, il est dans des très bons standards. Moi ça me semble logique parce que on l'a dit, on parlait d'Atlanta et les quarterbacks du milieu ces dernières années, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils gardaient pas Baker Mayfield, quoi, de toute façon. Je pense qu'on en revient
à ça. Non mais c'est ça, c'est un peu la... En fait, Tampa est dans une période un petit peu charnière, un petit peu le même virage que devaient prendre un peu les Lions en fin de saison dernière. Et le côté, est-ce qu'ils étaient vraiment en sur-régime, est-ce qu'ils ont eu vraiment un gros coup de chaud en fin de saison, et est-ce que l'année prochaine ils vont revenir un petit peu dans le rang. La meilleure manière de le savoir et peut-être de faire taire les détracteurs, c'est de conserver, comme je le disais, globalement une ossature. L'ossature qui a permis non seulement d'aller en playoff, certains diront avec leur division, mais en plus de mettre une correction aux Eagles derrière. Et c'est pas plus mal de repartir sur ces bases-là avec ton quarterback titulaire.
C'est vrai qu'il peut nous faire une Jared Goff, un peu le côté ancien numéro 1 de la draft qui regagne la confiance dans une nouvelle équipe. Ça c'est pas mal. Et puis tu le disais, mine de rien, moi je vois la division aussi comme une raison de plus de le garder, parce que on parlait, est-ce que les Falcons sont favoris? Les Falcons, ils vont avoir un nouveau quarterback qui revient de blessure qui a 35 piges. Mayfield, il en a 28, il est un peu plus jeune quand même. Il y a aussi ça qui joue.
Oui, puis il a un bon casting autour de lui. Il y a une défense qui, même avec le départ de Shaq Barrett, a beaucoup investi sur les lignes défensives, en tout cas sur le front 7 ces dernières années. Donc en soi, Tampa va être un concurrent très clairement dans cette NFC Sud et dans la conférence nationale en règle générale.
C'est ça, et puis c'est les montagnes russes sur son niveau. Alors oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu des baisses statistiques en 2021-2022, mais 2020, tu vois, 26 touchdowns, 8 interceptions, quand il y a une bonne équipe autour de lui, qu'il est dans des bonnes conditions et qu'il est serein, ça avait marché. Il est un peu blessé, je crois, en 2021, c'est pour ça qu'aussi il y a une baisse de niveau, il y avait des attentes sur Cleveland. 2022, il est ballotté un peu partout, on lui fait plus confiance, mais tu vois, à partir du moment où il termine dans des bonnes conditions avec une bonne équipe autour, on parlait de Cousins qui est un bon quarterback, Mayfield est un peu en dessous, mais s'il est bien entouré, il fait partie de ces mecs qui peuvent faire à peu près tourner une équipe.
Non, mais c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, enfin, même depuis sa période à Oklahoma. Donc tu l'as dit, en plus, il a démarré sa carrière NFL sur les chapeaux de roue. Donc c'est vrai que voilà, cette traversée un peu du désert a pu paraître assez étonnante. Peut-être que ça lui a permis également de prendre un petit peu de recul sur la situation, de faire un peu le point personnellement, et puis d'arriver dans une nouvelle franchise avec un nouvel objectif. Pour l'instant, ça colle et il faut espérer pourtant pas avec cette prolongation logique que ça continue en ce sens.
Ouais, je regardais, on parlait de Cousins clutch en playoff. Baker Mayfield, il se défend pas mal. Hein. Avec Cleveland, il a 2 matchs, 4 touchdowns, 1 interception. Avec Tampa, il en a 2, 6 touchdowns pour 2 interceptions. En playoff, il tourne plutôt pas mal. Il a pas perdu de fumble non plus. Il a perdu 3 ballons en 4 matchs. Bon, voilà, ça pourrait être pire, mais... C'est pas indigent non plus. Petite pause et on va parler un petit peu d'autre chose que de quarterback, parce que oui, on parle beaucoup de quarterback.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Dans ce podcast sur les grandes tendances des premières heures de la Free Agency, on a choisi quelques grands thèmes. Encore une fois, on vous le redit, il y aura d'autres émissions, ne vous inquiétez pas si on ne parle pas de tous les joueurs. Et on va revenir sur une signature, là encore, je pense qu'on va pas y passer 10 ans parce que c'est du très logique. Chris Jones reste au Kansas City Chiefs, il prend 32 millions par saison, il devient le défenseur le mieux payé de la ligue. Il a 95 millions garantis dans le contrat. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire, Grégory. 10 sacs et demi l'année dernière, une des meilleures défenses de la Ligue avec lui. Ils sont beaucoup moins bons sans lui. Voilà, il le garde.
Oui, ça fait partie des... Pour moi, ça fait partie des trois pions essentiels à l'heure actuelle considérés par le front office. Et ai-je besoin de citer les deux autres qui se situent en attaque? Je pense que beaucoup les connaissent déjà. Et je pense que pour l'instant, Kansas City est dans une situation où ils peuvent encore se permettre financièrement, grâce notamment à leur bonne draft de ces dernières années, notamment en défense, de pouvoir s'assurer de conserver des cadres assez importants. On sait qu'il y a une situation autour de Jarvis Need sur le poste de cornerback qui est à voir. Il a été tagué pour l'instant et je pense qu'on... Où on va négocier pour une prolongation, on va peut-être essayer d'en tirer le meilleur prix via un trade, mais en tout cas, on considère que ça reste une valeur inestimable pour l'avenir des Chiefs, quoi qu'il en soit, et Chris Jones s'inscrit dans cette logique-là. On parle du meilleur defensive tackle de la ligue avec Aaron Donald, donc il n'y a aucune raison à l'heure actuelle de ne pas le conserver, surtout quand tu sors de deux titres NFL auxquels il a contribué.
Ouais, là, encore une fois, moi, j'ai pas grand-chose à dire. 4,3 yards par action autorisés quand il est sur le terrain, 5,5 quand il est pas là. Bon, je pense que le pourcentage de sacs est à 4% sans lui, 11% avec lui. C'est un joueur de 29 ans qui est en pleine bourre, c'était évidemment essentiel. Tu disais trio, moi, je rajouterais Quatuor avec Andy Reid.
Je pensais aux joueurs, mais oui, en effet, oui, c'est un point assez important. Hein.
Voilà, il pouvait pas le laisser partir, je voyais pas comment il pouvait le laisser partir. Et puis quand là tu commences à avoir des mecs qui parlent de triplé et tout, qui ont envie de rester là, je trouve ça pas mal, c'est une belle intrigue pour la saison à venir. On va parler maintenant d'une position au global, parce que ça a été quand même une des surprises. Les running backs ont été les grands agitateurs du marché. Alors je suis triste que Raphaël n'ait pas pu être avec nous, malheureusement il a eu un petit empêchement de dernière minute et on lui fait une bise, il devait être avec nous à la base, parce que c'est lui qui a dit, alors moi j'avais proposé les Raiders, hein, j'étais ambiancé par Watkins et Minshew, il a dit maintenant il faut qu'on parle des running backs, et il a raison, parce que Saquon Barkley rejoint les Eagles, Derrick Henry rejoint les Baltimore Ravens, Josh Jacobs va chez les Packers, qui du coup coupe Aaron Jones qui va chez les Vikings, rival de division aussi d'ailleurs, Tony Pollard signe chez les Titans, DeAndre Swift chez les Bears, Joe Mixon est envoyé chez les Texans pour faire de la place à Zach Moss qui arrive chez les Bengals, et Austin Eckler débarque chez les Washington Commanders. Alors il y a deux gros morceaux là, à trois. J'allais dire deux gros morceaux, Saquon Barkley, Derrick Henry, mais trois peut-être avec Josh Jacobs quand même, qui a été meilleur coureur de la ligue ces derniers temps. C'est quoi le plus gros coup? C'est Saquon Barkley aux Eagles?
On peut le voir comme ça, après en fonction des préférences, c'est pas mon choix, c'est pas le choix en tout cas qui m'intriguait le plus sur la position de running back.
Ah ouais, c'est lequel alors?
J'aime bien Josh Jacobs aux Packers, notamment...
Pourquoi? Parce que alors, je t'avoue que moi j'ai du mal à comprendre celui-là.
Bah, parce que je trouve qu'il était sous-utilisé aux Raiders pendant pas mal d'années et qu'au bout d'un moment, le divorce paraissait un peu inéluctable. On parle d'équipes, notamment, on parlait des Steelers tout à l'heure. Je pense que les Raiders ont investi en partie sur les lignes, mais pas suffisamment sur l'intérieur. Et que malheureusement, ça s'est trop ressenti sur le jeu au sol pendant bien trop d'années, quels qu'aient été les régimes en place. Et aux Packers, quand on voit ce qui est en train d'être mis en place, et justement un système offensif qui fait la part belle au jeu au sol, on peut se dire qu'un Josh Jacobs, derrière une telle ligne offensive et derrière un système aussi bien huilé, avec également une attaque aérienne qui commence à se développer, ça peut vraiment devenir une attaque ultra explosive, et je trouve que c'est intéressant en ce sens. Il y a peut-être un aspect aussi où il y aura un peu moins de se blesser qu'Aaron Jones, parce que ça devenait un petit peu une constante malheureusement de Jones, et c'est aussi principalement pour ça qu'on s'en s'est séparé, c'est aussi une question de gros sous, on va pas se mentir. On a vu qu'en playoff, il avait malgré tout une importance, mais je trouve que c'est assez excitant sur le papier. Saquon Barkley, je vais pas dire que c'est pas intéressant. Philadelphie en avait besoin pour clairement rebooster le backfield offensif, parce que DeAndre Swift n'était pas la solution. Vas-y.
Alors attends.
Parce que du coup, c'est moi qui ai enchaîné sur autre chose, alors que ta question initiale portait sur Barkley. C'est pour ça que je vais me permettre d'enchaîner.
Ah oui, autant pour moi. Non, mais c'est, du coup, je voulais rester sur la situation Packers, vas-y, parce qu'on était parti là-dessus. Je voulais juste glisser un mot. On est d'accord, donc, le choix Josh Jacobs plutôt qu'Aaron Jones, parce que sur le terrain, sportivement, quand ils sont tous les deux en forme, bon, j'avais pas particulièrement de... Josh Jacobs a été plus productif, mais je trouve qu'Aaron Jones faisait quand même un très bon travail quand il était opérationnel. Donc c'est vraiment une question blessure et argent.
À mon sens, je pense que c'est ça. C'est une question opportunité où on s'est dit, bah, il y a énormément de coureurs qui sont sur le marché, et ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'on, malgré la présence d'Aaron Jones et des J. Dillon et de la fameuse ligne offensive dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a cette histoire d'un possible nouveau coureur qui arriverait du côté de Green Bay pour rebooster un petit peu ce secteur. C'est pas par hasard, c'est parce qu'on commence à savoir que Aaron Jones commençait à peser lourd dans la balance, avec malheureusement un impact qui n'était pas nul, mais qui en tout cas était trop ponctuel, si je peux parler ainsi. C'est aussi la problématique, et manifestement on lui a demandé de restructurer son contrat, ce qui n'a pas été accepté par le clan Aaron Jones. C'est aussi pour ça qu'on en est venu à cette décision, parce que peut-être qu'on aurait pu avoir un duo Josh Jacobs Aaron Jones sur le papier, ce qui n'aurait pas été déconnant pour les Packers.
Oui, ça aurait été pas mal. En effet, tu le dis bien, il devait toucher 12 millions de dollars pendant la saison 2024, avec un chiffre dans le salary cap de 17 millions. Ils lui ont demandé de prendre une baisse de salaire, selon ESPN, il a refusé. Et c'est vrai que le contrat de Jacobs, c'est 4 ans, 48 millions, donc ça fait 12 par an. Donc c'était la même chose en fait. Hein. Donc en effet, tu prends un joueur qui est plus en forme généralement, et puis qui a été bien alors même s'il y a eu quelques blessures de Jacobs, mais il a été bien préservé par la sous-utilisation des Raiders ces derniers temps. Donc il doit être plus frais. Donc c'est pour ça. Ok. Mm-hmm. On revient à Saquon Barkley.
J'allais dire que forcément c'est un bon ajout. Alors lui aussi, un peu comme Aaron Jones, malheureusement il y a pas mal de petites blessures qui ont un peu perturbé ces dernières années. Je pense qu'on arrivait aussi à une fin de parcours du côté des Giants. On avait plus l'impression qu'ils dérangeaient qu'autre chose, si je peux parler ainsi, dans le marasme offensif global. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes les histoires de polémique, il va chez un rival de division. Faut rappeler au passage qu'avant d'aller aux Giants, il a quand même grandi en Pennsylvanie. Donc voilà, je pense que Philadelphie, c'est pas non plus un choix qui est fait totalement par hasard. Mais en tout cas pour les Eagles, voilà, c'est sûr que c'est intéressant parce que c'est une menace, c'est une double menace dans le backfield offensif, ce qu'il n'avait pas forcément avec DeAndre Swift. Et là, il y a moyen en effet de rendre de nouveau cette attaque de Philadelphie beaucoup plus létale, avec un quarterback qui est capable d'être double menace et avec un coureur qui est capable d'être double menace, pour potentiellement être relancé comme l'avait été Christian McCaffrey en arrivant du côté de San Francisco par exemple.
Ah bah c'est pour ça que moi c'est celle qui m'ambiance le plus, hein, la signature, parce que alors il prend un gros salaire, il prend un contrat de 3 ans pour 37 millions 75, 26 millions garantis, il devient le coureur le mieux payé de la ligue au passage, mais ouais, s'il est en forme, alors c'est un gros si avec lui, mais waouh, s'il est en forme là, parce que la ligne c'est autre chose que New York quoi. Donc il va y avoir des brèches, il va pouvoir s'éclater, comme tu le dis, c'est une bonne comparaison, c'est un peu l'arrivée de McCaffrey à San Francisco, et ça peut être sympa pour Philadelphie, qui ont une année un peu dure là, pour se remettre dedans, pour retrouver un peu de niaque. En tout cas la pression elle est sur les coachs, hein, parce que si là ils font pas des trucs en attaque, excuse-moi, mais quand t'as AJ Brown, Saquon Barkley, Devonta Smith, Jalen Hurts, Bon, a priori, là, va y avoir quelques...
Oui, avec Kellen Moore, en plus, qui arrive en coordinateur offensif. Alors, c'est sûr que Austin Eckler n'était pas un coureur numéro un sur le papier, mais quand on voit l'impact qu'il a réussi à lui donner, de par son profil, justement, double menace, lui donner Saquon Barkley, qui a beaucoup plus de potentiel en maniant l'euphémisme, c'est quand même une excellente chose pour les Eagles, très clairement.
Derrick Henry chez les Ravens, du coup j'avais dit que c'était un peu le trio là, Jacobs, Barkley, Henry, c'est pas mal. Alors c'est un peu différent, Derrick Henry il a 30 ans maintenant, on sait que c'est toujours un peu le cut hein, pour les coureurs, moyenne de 4,2 yards par course la saison dernière, c'était sa plus faible depuis sa seconde année. Il a quand même l'excuse que les Titans c'était un peu en lambeau, que ce soit au poste de quarterback ou sur la ligne. Là, c'est un peu. D'ailleurs, c'est un peu comme Barkley. Alors, toute proportion gardée, parce que c'est plus. Encore une fois, c'est pas le même âge et pas le même potentiel, mais il arrive quand même dans une équipe qui est beaucoup mieux construite. Donc, mine de rien, ça pourrait leur donner un second.
Oui,
souffle.
Ça me paraît être un fit, comme on dit, une collaboration vraiment idéale sur le papier. Voilà. Les Ravens aiment bien faire ce genre de signature, en tout cas aller chercher des vétérans qui vraiment ont faim. De ponctuer, on dira, leur carrière en allant chercher une bague. Ils l'avaient fait déjà par le passé. Bon, Odell Beckham en soi était un pari en ce sens l'année dernière. On peut citer Steve Smith senior également, il y a dans un passé un peu plus ancien.
Ah, oui.
Mais voilà, ils aiment bien en effet avoir ce côté vétéran dans le vestiaire, tout simplement, et des joueurs, comme je disais, aux dents longues. Je pense que Derrick Henry, malheureusement, on a ressenti l'année dernière qu'il y avait quand même un essoufflement, on va dire, dans ses prestations, mais là, encore une fois, on va pas faire très original, il y a une ligne offensive qui commençait vraiment à devenir hyper problématique du côté de Tennessee, et qui l'est toujours à l'heure où on enregistre cette émission, un jeu qui était unidimensionnel du côté de Tennessee, qui le sera sans doute un petit peu moins du côté de Baltimore, mais en tout cas, ils auront aussi cet avantage, là encore, d'avoir un quarterback double menace, donc d'avoir une équipe capable de vraiment... on aura la vivacité du quarterback avec le côté vraiment... je sais pas, costaud, robuste du coureur, parce que voilà, même si Derrick Henry est capable d'avoir un profil un tant soit peu polyvalent, c'est pas vraiment dans ce registre-là qu'on le connaît. Et puis ça laisse augurer quand même de choses assez intéressantes. On a vu un Keaton Mitchell assez intéressant la saison dernière, le petit feu follet qui malheureusement s'est blessé en cours d'année. Ça peut nous donner un duo assez atypique avec le colosse et le petit virevoltant dans le backfield. Donc en effet, ça me paraît être un choix assez logique pour Baltimore et pour Henry. Les Ravens se lorgnaient un peu sur Henry depuis la saison dernière notamment. Donc voilà, là aussi c'est un peu comme Cousins à Atlanta, c'est gagnant-gagnant je trouve des deux côtés.
C'est vrai qu'il y a pas mal de signatures quand même plutôt intéressantes et plutôt logiques hein, de ce côté-là. On en a d'autres, alors je les ai citées, Aaron Jones, Pollard, etc. Il y a beaucoup beaucoup de mouvements. Est-ce qu'il y en a qui changent vraiment les choses? On peut prendre dans l'ordre, mais ou alors est-ce que tu en vois une, toi, Aaron Jones aux Vikings, Tony Pollard aux Titans, DeAndre Swift aux Bears, Joe Mixon aux Texans, Zach Moss aux Bengals, Austin Eckler chez les Commanders. Est-ce qu'il y a une de ces signatures-là qui est vraiment un tournant
sur le poste de running? Moi, je suis très intrigué par Zach Moss à Cincinnati. Parce qu'on a vu, alors c'est sûr que du côté des Colts, on avait un jeu au sol qui était très très assumé, où forcément, ça lui a aussi permis de briller, même en l'absence de Jonathan Taylor. Mais je trouve qu'il a, en tout cas, ce côté un peu plus hargneux, je dirais, dans le backfield offensif que Joe Mixon. Voilà, qui, lui, en effet, était peut-être plus adapté à un comité de coureurs, à justement avoir ce côté. Et je trouve que le fait qu'il aille à Houston, c'est une très bonne opération pour les Texans aussi, parce que la complémentarité avec Damien Pierce va pas être déconnante en soi. Mais voilà, il y avait peut-être besoin d'un coureur un peu plus harassant, je dirais, pour les défenses, et apporter cette menace-là en ayant toujours le quarterback qu'ils ont, le receveur numéro 1 qu'ils ont. Alors on sait que c'est un peu, il y a un peu un imbroglio encore à l'heure actuelle concernant T. Higgins, mais en tout cas je trouve que c'est une menace qui est non négligeable et qui peut permettre justement à cette équipe de Cincinnati de ne pas rester dans un côté on a le jeu aérien, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je trouve que ça peut être une des signatures un peu sous-cotées sur la position de running back et qui peut faire énormément de bien aux Bengals à l'issue de cette intersaison.
Ouais, moi j'avoue que de toute façon, je trouve qu'il était temps de tourner la page Joe Mixon. On sentait qu'il y avait... C'était quand même très poussif la saison dernière. Il sortait un match de temps en temps. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur l'intérêt de la signature de Zach Moss. Ça apportera quelque chose. Après, je pense qu'il pourrait peut-être drafter quelqu'un aussi. Je ne me rappelle plus exactement de la profondeur.
Ils ont pris Chase Brown la saison dernière, qui a montré quelques petites choses, mais voilà, qui est encore un petit peu tendre à l'heure actuelle. Mais connaissant le talent un peu du bonhomme, notamment en universitaire, là aussi, ça peut être un duo assez complémentaire et qui peut vraiment, vraiment fatiguer les défenses.
Disons qu'en tout cas, moi, je suis content qu'il tente quelque chose parce qu'il était temps. Il faut absolument mettre quand même un semblant de jeu au sol autour de Joe Burrow si tu veux pas qu'il soit constamment exposé comme ça et allonger un petit peu sa carrière. Donc ça, je trouve ça quand même... Je trouve ça quand même plutôt intéressant. Alors, sans être dans les proportions, parce que c'est vrai qu'on parlait de Derrick Henry, je l'avais pas précisé, hein, mais Derrick Henry s'ajoutait à ce qui était déjà le jeu au sol numéro 1 de la ligue. Hein, donc, ils vont être terrifiants. C'est pas le style des Bengals exactement, mais il faut quand même un petit semblant de jeu au sol. On l'a vu en playoff, ça aide même des fois des Patrick Mahomes ou des joueurs comme ça d'avoir un peu de jeu au sol autour d'eux. Donc ça, je trouve ça intéressant. Derrière, donc, Aaron Jones aux Vikings. Allez, on va les prendre un par un rapidement. Aaron Jones aux Vikings, on a quand même l'impression que là, du coup, il va s'enfermer dans une reconstruction.
Oui, bah...
Une saison, oui, 7
millions
de dollars.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, ça ressemble un petit peu à un pari qui sera meilleur, en tout cas, que ce qu'ils avaient la saison dernière. Encore une fois, sous réserve qu'ils restent en forme, parce que malheureusement, c'est une variable d'ajustement un peu trop importante ces derniers mois le concernant. Mais oui, enfin, à 100%, c'est un joueur qui va faire énormément de bien à un jeu au sol qui était devenu vraiment... qui était devenu insipide ces derniers mois du côté de Minneapolis, quoi. Donc ça peut clairement pas être une mauvaise opération, et j'insiste là-dessus, ça peut permettre d'apporter une petite variété. Il y a cette interrogation sur le poste de quarterback, mais les receveurs, ils les ont: Justin Jefferson, TJ Hockenson, Jordan Addison. Il peut quand même y avoir un casting non négligeable l'année prochaine du côté du Minnesota.
C'est vrai. Tony Pollard va chez les Titans. Alors là, on est 3 ans, 24 millions de dollars. Il est allé chercher l'argent parce que sportivement, il n'y a pas beaucoup de sens à quitter Dallas à ce moment-là par rapport.
Ouais, puis même. Alors moi, j'avoue que c'est une signature qui me laisse un peu pantois, si j'ose dire. Alors, il y a beaucoup de belles histoires un petit peu comme ça. Tony Pollard, faut rappeler qu'il sort de l'université de Memphis. Il a grandi dans le Tennessee. Donc il y a ce côté aussi un petit peu retour aux sources qui a pu éventuellement pencher
autant
dans
point,
la balance par rapport à ça. Alors il sort de deux saisons à milliards, la deuxième en ayant eu pleinement les clés du camion, mais c'est vrai que là encore il y a eu des rencontres où on a senti que dans ce statut de coureur numéro 1 et presque quasi seul coureur du backfield, il pouvait faire des matchs où il prenait feu, et d'autres matchs où derrière une très bonne ligne offensive, bah, c'était un peu plus compliqué. Et on en revient à toujours cette histoire là, c'est qu'il faut voir le visage de la O-line de Tennessee. On a vu que Derrick Henry a commencé à accuser le coup. Je sais pas dans quelle mesure Tony Pollard va être capable de briller, surtout que le quarterback, a priori sur le papier, ce sera Will Levis. Donc, ouais, là encore, c'est vraiment plus le casting autour de lui qui m'inquiète un petit peu. Et ouais, tu choisis vraiment de changer d'état d'esprit avec l'arrivée de Brian Callahan. Je pense qu'on sera plus vraiment sur du jeu au sol lourd, mais vraiment sur un coureur qui apportera peut-être une palette un peu plus élargie à son jeu. Mais là encore, je pense que ça ne se fera pas sans du sang et des larmes, comme on dit.
Joe Mixon envoyé aux Texans, Raphaël nous disait dans la journée qu'il trouvait ça intéressant. J'avoue que moi j'étais un peu comme toi d'ailleurs, je crois un peu.
Non, je t'ai dit sur Joe Mixon, moi je pense que Joe Mixon n'est pas un coureur numéro 1. Par contre, ça peut être un très bon coureur de comité. Et son duo avec Damien Pierce, je suis très curieux de voir ça. Parce que c'est deux joueurs qui sont très complémentaires sur le papier. Damien Pierce a une année un petit peu moins bien. Mais si on demande à Joe Mixon d'avoir le rôle d'un Devin Singletary la saison passée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Surtout qu'a priori, sur le papier, le jeu au sol, ce sera pas l'arme principale des Texans la saison prochaine. Mais si en tout cas, ils ont un duo qui est pertinent pour donner un peu plus les clés du camion à CJ Stroud, ou en tout cas lui ouvrir des fenêtres supplémentaires pour découper la défense, je pense que c'est pas négligeable. C'est pas en soi une mauvaise opération. Après, est-ce qu'il fallait absolument échanger pour le récupérer? Je ne sais pas, vu qu'il était annoncé prochainement coupé, mais voilà, les Texans avaient peut-être des informations que nous on n'avait pas, et ils préféraient s'assurer le joueur dans leur équipe.
Ouais, ça, il y a peut-être des équipes un peu intéressées. Du côté de DeAndre Swift, c'est quand même de la rotation. Il prend 24 millions de dollars.
Ça, tu vois, ça fait partie des choix, par exemple. Surtout que c'est la première signature. de la free agency. Moi, je me suis dit, franchement, quand t'es Chicago et que t'as le flou, ce que t'as en banque, que ton premier choix, ce soit de dire, bon, on va prendre DeAndre Swift pour la somme que t'évoques, dans un jeu au sol qui, en plus, sera un jeu de comité, on va pas se mentir, encore une fois, Khalil Herbert, Roshon Johnson, ça fait rêver personne sur le papier, mais je veux dire, c'est pas avec un DeAndre Swift et un jeu de comité que tu vas vraiment transformer ton équipe qui, à mon sens, a d'autres besoins. Alors, on sait qu'ils vont avoir pas mal de choix de draft, c'est haut, mais enfin, tu vois, je veux dire, en attaque, il y a encore plein d'autres postes que pour moi, t'aurais pu considérer. Ils ont décimé la défense avant justement le lancement de la free agency, avec notamment la coupe d'Eddie Jackson, pour ne citer que lui. Enfin, ouais, Chicago, je continue d'être un petit peu pantois par les choix de Ryan Poles et cette signature de DeAndre Swift. Vraiment, avec le tampon, regardez, on lance les hostilités, voilà notre premier choix. Je suis fan des Bears, je commence à me dire, oula, là, ça annonce du lourd.
Oui, j'avoue que je suis un peu circonspect aussi. Et puis Austin Eckler, je le citais dans ses coureurs, il va pour 2 ans et 11 millions de dollars à Washington.
Là aussi, coureur de comité, et il a remplacé Antonio Gibson à Washington pour être en binôme avec Brian Robinson. En soi, le duo me paraît là encore complémentaire. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'il sera sous la coupe de Cliff Kingsbury, à qui on pourra reprocher beaucoup de choses en tant que head coach. Mais pour gérer une attaque, je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il peut proposer du côté des Commanders, même s'il y aura toujours la question du quarterback à résoudre. Mais en tout cas, voilà, c'est pas... Là, on parle pas de coureur numéro 1, en tout cas, pas le même rôle qu'il avait du côté des Chargers ces dernières années, qui parfois pouvait peut-être peser un peu lourd sur les épaules, quoi.
On va terminer avec un petit, on fait plus de top flop officiellement, mais une petite coup de cœur et pas coup de cœur, une signature qui est passée sous les radars un petit peu, qui t'a plu dans ces premières heures de la free agency, Grégory.
S'il faut en choisir une, je sais pas. T'en as une toi?
Il y a Patrick Quinn chez les Steelers qui vient de tomber, je te dis ça. Parce que je vois que ça se moque un peu sur le chat de la rédaction qui dit évidemment la priorité c'était la défense.
Bah alors moi j'étais pas, c'est pas que j'étais pas fan, mais du coup je trouvais que leur duo de linebacker était un peu était besogneux mais sans réelle référence. C'est sûr que si tu rajoutes vraiment un vrai linebacker sur la position, même si certains diront que c'était plus Roquan Smith qui avait les commandes que Patrick Quinn, en tout cas on a vu que voilà, c'était pas juste un effet d'annonce en sortie de LSU et que il y a du talent et de la polyvalence chez ce joueur-là. Et en effet, chez les Steelers, ça fera pas tâche. Je le disais, ils ont encore du cap malgré tout avec la situation de Russell Wilson pour renforcer éventuellement leur attaque. Mais c'est sûr que ça peut laisser un peu pantois. En soi, c'est pas la signature qui me dérange le plus. Moi, en signature que j'aime bien, coup de cœur, sous les radars, je sais pas. Mais là encore, Xavier McKinney à Green Bay, moi j'aime bien. Voilà.
Oui. C'est vrai qu'on n'a pas fait un chapitre Packers, mais ils ont été plutôt offensifs, hein. Ils ont été plutôt offensifs avec Xavier McKinney, avec Josh Jacobs. Ça a été on a entendu des supporters des Packers se réjouir.
Oui. Alors après, c'est sûr qu'encore une fois, avec le nombre de safety qui était disponible sur le marché des transferts, on peut se dire bon, 68 millions sur 4 ans. Après, c'est pas franchement pour un joueur qui a le potentiel pour être un pro bowler régulier, qui a seulement 24 ans, dans un backfield en plus assez jeune pour remplacer. Ou Darnell Savage ou éventuellement Jonathan Owens. Je pense que c'est plus Darnell Savage qui en plus lui a trouvé un point de chute du côté de Jacksonville. Je pense que vraiment avec la polyvalence qui est la sienne, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très intéressant pour le nouveau coordinateur défensif Jeff Hafley.
C'est vraiment pas mal en effet ce que fait Green Bay. Je suis en train de regarder un petit peu les signatures, je triche, je reprends un petit peu la liste, je regarde ce qui est tombé. Non mais bon, Philadelphie fait quand même pas mal. Il y a Bryce Huff qui arrive aussi. Il y a quand même pas mal de mouvements.
J'ai bien aimé les Rams qui renforcent également la position de garde pour vraiment assumer le fait de dire bah Kyren Williams a vraiment explosé l'année dernière. On va lui donner vraiment toutes les clés en main en prolongeant Kevin Dotson et en allant chercher Jonah Jackson qui sort de très bonnes saisons du côté de Détroit. C'est un choix qui insiste. On sait que ça fait plusieurs années maintenant qu'ils cherchent à renforcer la ligne du côté de Los Angeles. Donc voilà. Là encore, entre leur bon choix de draft, notamment en défense, et Pukanakwa bien entendu l'année passée, et en plus cette attaque qu'ils arrivent à renforcer dans le début de cette free agency, on peut rester sur une équipe des Rams plus que candidat aux playoffs la saison prochaine.
Il y a la signature de Darnell Mooney aux Falcons, ça apporte encore de la profondeur aussi, j'aime bien. Par contre, c'est un peu cher.
C'est surtout qu'on parlait de Kirk Cousins, gros potentiel blessure, si je peux prendre cette expression-là, du côté de Darnell Mooney. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, dans un statut de receveur numéro 2, voire 3, selon ce qui va se passer pour la suite des événements, ça me paraît pas extrêmement farfelu. Voilà, encore une fois, Chicago, l'attaque aérienne était ce qu'elle était, avec un Justin Fields qui a une lecture pour le moins... approximative, et d'ailleurs pour qui les offres ne se bousculent pas, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler plus tard. Mais ouais, dans une autre attaque, je suis curieux de voir ce qu'il peut donner dans un autre système offensif. En tout cas, ça peut être intéressant, mais il va falloir qu'il reste à 100%. Ouais.
Bon, bah voilà, on a fait un petit tour rapide. Encore une fois, on reviendra plus en détail. Là, c'était vraiment les grandes nouvelles. Encore une fois, la signature principale, c'était Kirk Cousins sur ce début de free agency. On va terminer comme ça.
On n'a pas de flop.
Il y a des petites choses qui se passent du côté. Alors, vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y a une signature qui t'a paru? Alors, on a un peu taquiné la signature des Panthers sur le site, je m'en rappelle, parce que c'est.
Oui,
Hunt,
on remet Hunt, toi,
si je dis pas de bêtises.
Alors, oui, alors. Robert Hunt, alors, voilà, ça peut paraître étonnant, c'est vrai que c'est toujours particulier. Je parlais des Rams tout à l'heure avec Dunson et Jackson. Carolina, en effet, qui va signer deux gardes avec Robert Hunt de Miami et Damien Lewis, je crois, qui arrive de Seattle. Dans cette mouvance des deux, alors, je ne sais pas si l'autre est vraiment un garde, quid des Giants? Là, j'avoue que les premières heures, et je sais qu'on a des fans des Giants dans l'équipe, qui me rejoindront assurément. Pour l'instant, je ne comprends pas ce qui est mis en place. Ils ont signé John Runyan des Packers assez cher, en plus. Ils ont été chercher Jermaine Eluemunor, qui est un peu un joueur doublon, garde, tackle. C'est peut-être un peu plus pour la profondeur, en tout cas. Ils signent Drew Lock comme quarterback.
Oui.
Il signe Devin Singletary pour remplacer Saquon Barkley. Singletary qui sort d'une bonne saison, mais...
Ça sent pas très bon. Alors,
il y a eu la situation autour de Brian Burns. Le trade pour éventuellement le récupérer en provenance des Panthers. Après, est-ce que Burns était sur une bonne trajectoire du côté de Carolina? Je sais pas. On voit que dans des environnements un peu en dilettante, c'est pas forcément là où il performe le mieux. Après, c'est sûr que sur le papier, en défense, son duo avec Thibodeau est extrêmement excitant sur le papier. Mais offensivement, waouh! Là, je me dis, il va falloir qu'ils nous vendent du rêve, les Giants, parce que ça commence très mal.
Ouais, ça va être compliqué. Bon, bah, c'est sur ces bonnes nouvelles pour les Giants qu'on va terminer cet épisode numéro 738 du podcast. On en reparlera évidemment bientôt, encore une fois, de cette free agency qui continue. On vous rappelle tdactu.com pour tout suivre. Il y a des articles en direct. On salue le boulot formidable de ces dernières heures. Je vais sûrement oublier des gens, mais là, je regarde un petit peu qui est au boulot. Tiens, Mathieu Delà, Alex, Nitinia, Brice, Mathieu Pasquier était sur le pont aussi hier soir. Raphaël était sur le pont aussi, enfin, il y a eu des articles qui sont venus un peu de partout. Marc Orfila aussi file un coup de main, Brice est là, enfin voilà, tout le monde est là et donc franchement ça déroule les signatures en ce moment sur TDA, donc n'hésitez pas à y aller. Il y en a sûrement eu plein depuis qu'on a parlé, ça se trouve il s'est passé un truc énorme, je ne sais pas. Merci beaucoup Greg, on remercie les tipeurs, le premier s'appelle Greg d'ailleurs, donc merci à Greg, Mickaël, Grégoire Castelnau, Guillaume Servos, Ririk le Géant, Thibaut Robligno, Matt Minidwitch et Fabien pour leurs tips qui ont eu lieu depuis le Super Bowl. Merci encore à toi Greg, on vous rappelle tdactu.com pour toute l'actualité de la NFL. Demain, vous avez un podcast draft, c'est celui que j'ai poussé Victor à décaler et je le remercie. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your backyard aren't exactly comfortable. And while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's ALLBIRDS.com.